Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume, le dernier de la saison. À la veille de la réouverture des salles consacrées à l'actualité VOD, DVD et Blu-ray du cinéma, puisque à partir de la semaine prochaine et pendant tout l'été, puisque le masque ne s'arrête pas, on parlera de films enfin sur grand écran et enfin en salle. On respire avec Pierre Murat de Télérama, Eric Neuf du Figaro, Michel Simon de Positif et notre amie Eva Bétan de France Inter qui publie ces jours-ci aux éditions Stock Le goût de nos mères, sous-titré 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle, où il y a beaucoup de gens de cinéma. J'ai vu Noémie Lvovsky, Claude Lelouch, des comédiens et amis comme François Morel, Jamel Debbouze et d'autres, qui tous donc donnent la recette qu'ils ont héritée de leur mère.
Ils donnent la recette et c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'ils parlent aussi de leur histoire, de leur rapport à leur mère, de leur rapport à l'enfance. Donc c'est pas juste des recettes.
Ah non, mais bien sûr. Non,
il y a aussi Christian Mundiu qui nous raconte une enfance heureuse en Roumanie grâce à sa mère, malgré toutes les contraintes.
Ça pourrait faire un documentaire assez étonnant, ce qui se passerait où il y aurait des confidences en cuisine.
Exactement.
Que les uns et les autres pourraient faire.
Une nouvelle vie s'offre à moi.
Et puis il y a des écrivains, et puis j'ai pas vu en revanche de membres du Masque et la Plume. Tu n'as pas demandé à Eric Neuf quelle recette faisait sa mère, ou, ni à Michel Simon. Mais ça sera pour lui.
C'est pour l'avenir.
Un second volume.
Tout ça, c'est l'avenir.
Voilà, Le goût de nos mères, c'est signé Eva Bétan, et c'est aux éditions Stock. Dans le courrier de la semaine, à propos de Possessor, de Brandon Cronenberg, Arnaud Sanquer juge que plus le fils ose aller vers le cinéma de papa, plus son film est puissant, angoissant, dérangeant. Et donc passionnant, une colère parmi les nombreuses que j'ai reçues à propos de La Grande Traversée de Soderbergh. Vous savez, le film avec Meryl Streep, pourtant défendu ardemment, pour ne pas dire plus, par Jean-Marc au masque. Et donc, cher masque, cher plume, nous écrit Bruno Céline, je considère Soderbergh comme le plus doué de sa génération et des suivantes aux États-Unis. Je me réjouissais donc de découvrir Sa Grande Traversée. C'est malheureusement un naufrage. Son pire film avec ses très anciens Kafka et Schizopolis. Ce n'est pas l'avis d'Ambre Munier qui a 18 ans. Elle nous écrit que même si elle a eu l'impression sur ce bateau de revivre son premier confinement, ce qui n'est pas faux, le film, lui a tout de même paru magistral, très beau et dans son silence, parfaitement à propos. Julien, qui habite la Saône-et-Loire, réagit à ce qu'on a dit ici de Wonder Woman de Patty Jenkins. Je ne vais pas défendre le film, le premier était d'une bien meilleure facture, mais le personnage interprété par Kristen Wiig n'est pas une méchante inventée pour le film, c'est un personnage récurrent des comics de Wonder Woman, puisqu'elle est en fait Cheetah, l'ennemi juré de la princesse Amazone. Une bonne surprise dans un long métrage gâché par une esthétique voulant faire référence à la série d'origine avec Linda Carter. Enfin, à propos de la réédition de la Dolce Vita, vous allez hurler, hein, de Fellini, dont on parlait la fois dernière, Thierry Dougne, lui, il est formel, il est même lapidaire. Je me permets ce conseil aux plus jeunes, les vénards, qui n'ont pas encore vu la Dolce Vita, ne perdez pas 3 heures de votre temps, c'est à périr d'ennui. On a sans cesse envie de dire au personnage de Mastroianni, rends-toi service, mon garçon, va te coucher, une bonne nuit de sommeil, et il n'y paraîtra plus. Je m'attendais à des défenses, illustrations du film de Fellini, et c'est une parmi plusieurs que j'ai reçues très négatives. Ça m'a surpris quand même.
Mais Fellini est au purgatoire actuellement.
Ah oui, c'est donc.
Ah oui, non, mais personne n'aime Fellini. Je ne comprends pas pourquoi, mais ça ne touche pas actuellement, me semble-t-il. Les jeunes générations, ben, il faut un peu de temps, peut-être.
Il n'a même pas 8,5 sur 20, alors.
Mais la Dolce Vita que j'avais revue pour l'émission, j'avais vu autrefois, moi, j'étais, mais vraiment sous le charme, et quand j'ai reçu ces messages, message. J'étais un peu triste, voilà. Et on commence avec un film doublement récompensé à la Mostra de Venise en 2018. Il n'est pas sorti en salle, il a été diffusé directement sur OCS et il vient de paraître en DVD Blu-ray chez Condor. C'est The Night Gale, le deuxième film de l'Australienne Jennifer Kent, avec Aisling Franciosi et Sam Claflin. On est dans l'Australie un peu improbable de 1825, avec à l'époque c'était une colonie britannique, avec des soldats qui massacrent vraiment, mais à qui mieux les aborigènes. Une jeune bagnarde irlandaise, c'est donc Aisling Franciosi, qui a une voix de rossignol, d'où le titre, et qui a purgé sa peine, mais je dirais même double peine, puisqu'elle est violée par un officier régulièrement, qui est Sam Claflin. Je crois qu'elle va pouvoir vivre librement avec son mari et leur enfant, mais ils sont tués par des soldats britanniques. Et alors, elle va choisir un pisteur aborigène qui est joué par Bekali Ganambar, qui a eu le prix du meilleur espoir à la Mostra de Venise. Et donc, guidée par lui, elle va se venger en poursuivant les criminels à travers les terres vierges de Tasmanie. C'est un film long, hein, 2h16, format carré, et qui aura peut-être mérité le grand écran, moi je l'ai vu sur un petit, mais dont je comprends mal les cris d'orfraie, mais vraiment d'orfraie, qu'il a suscité il y a 3 ans à Venise, quand il a été projeté, sinon peut-être à cause de l'ultra-violence qui se dégage de ce film. Tu étais à Venise, toi,
Absolument. Alors,
Michel
Absolument. Le film, en fait, était en queue de palmarès, puisqu'il y a eu ce prix donné à ce jeune aborigène, le meilleur espoir. Le film a été mal reçu, y compris par moi. D'ailleurs, on va en parler.
Mais quelle est la raison pour laquelle il s'était si mal accueilli à...
Ben, je crois, pour la raison que pour moi, c'est un film assez épouvantable.
Pour sa violence ?
Oui, je trouve ça d'une complaisance incroyable. Elle avait fait un premier film assez prometteur, un film d'épouvante.
Qui était bien. Hein.
Qui était bien. Oui. Mais elle a appliqué à une histoire réelle, à un fait historique, donc traité de façon réaliste, elle a appliqué les recettes du film d'horreur. Et je trouve que ça va pas du tout, parce que c'est politiquement correct. C'est normal, d'ailleurs, l'accueil à Paris aujourd'hui de ce film est tout à fait dans la note actuelle. C'est-à-dire, on est absolument dans le politiquement correct. C'est-à-dire, tous les aborigènes sont des gens absolument formidables. Les soldats britanniques sont tous d'une horreur. Enfin, on tue des bébés à bout portant.
Ils le sont dans le film, Michel. C'est pas...
Comment ?
Ils le sont dans le film, c'est incontestable.
C'est ce que je dis, mais un film reflète tout de même une certaine réalité. C'est un film qui est d'un tel manichéisme, tellement noir et blanc. On est obligé de parler tout de même d'une certaine position philosophique. Moi, je pense que l'être humain, c'est pas une question de peau. L'être humain est horrible et magnifique, ça dépend des circonstances. Donc je pense que cette façon de voir le monde en noir et blanc de façon aussi outrancière, les bébés qu'on massacre en gros plan, on en rajoute à chaque fois, on tire dessus.
C'est pas en gros plan, hein, le bébé, pardon, non, pardon d'interrompre, quand le bébé meurt, on ne voit pas la mort du bébé.
Mais surtout que les soldats britanniques... au milieu du 19e siècle, en Australie, on perpétrait des véritables massacres.
Vrai.
Non, mais c'est incontestable. C'est pas du manichéisme.
C'est la façon dont c'est traité. C'est une question de mise en scène et de style. J'ai énormément d'admiration pour les jeunes australiennes. C'est un des pays où il y a le plus de... Je parle pas seulement de Jane Campion, qui est la plus grande d'elles, mais parmi énormément de jeunes réalisatrices, c'est une pépinière de talent. Et j'ai regretté que cette femme, dans ce deuxième film, évidemment, elle aura les applaudissements de tous les gens engagés dans le noir et blanc, si j'ose dire, même si c'est des films en couleur, c'est des films en fait.
Mais justement, elle les a pas eu à Venise, c'était d'où la question, elle les a pas eu ces applaudissements, elle a eu plutôt des cris.
Non, c'est parce que je pense que beaucoup de critiques, c'était à la projection de presse. Moi, je ne sais pas comment le film a été accueilli par ailleurs, mais je sais que la projection de presse, il y a eu un rejet du film parce qu'on l'a trouvé, encore une fois, insistant, laborieux, grand guignol, et qu'on ne traite pas comme grand guignol. Les Noirs et les Arabes qui font des films ne montrent pas ces choses-là de cette façon. Les victimes ont plus de décence que les bourreaux.
Alors, je voudrais que tout le monde s'exprime sur ce film, Eva.
Je ne te suis pas tout à fait, Michel. Hein. On est parti très loin. Prenons les faits, prenons ce film. Il parle d'une réalité historique qui a existé. C'est la colonisation britannique dans cette région qui est extrêmement violente. Et montrer une violence qui a existé, c'est un fait. Donc le problème serait de l'édulcorer.
Ça dépend comment tu l'as. Je parle de mise en scène.
Après, ça dépend dépend comment tu la montres.
Par exemple, 12 Years a Slave de Steve McQueen est un film extraordinaire sur l'esclavage, mais c'est un film mis en scène. Ici, c'est comme vous parlez d'un tableau qui montre quelque chose, mais il n'est pas peint.
Pardon, mais on peut se poser l'éternelle question de comment on montre la violence. Bien sûr, c'est une question qui est légitime, mais ça part comme un film... une structure qu'on connaît, un massacre, une violence, une vengeance, film de vengeance, et c'est plus complexe que cela. Parce que elle part pour se venger, effectivement, et quand elle se venge sur le sbire de l'homme, du gradé britannique qui l'a tenu sous sa coupe et qui l'a violé en premier, cette scène est montrée. Elle est extrêmement violente, mais elle ne veut pas chercher chez toi le fait de se dire, puisque ça vient après un bon moment, « Ah bien fait, enfin tu en as eu un ». C'est une scène violente et répugnante, et où la caméra la filme à la fois elle, et filme le sang sur son visage qui éclabousse, c'est pas une scène de joie, et elle filme aussi l'homme qui est battu. Donc la question, oui, cette scène est dérangeante, mais elle n'est pas une apologie de la vengeance, puisque le coup de théâtre du film, en quelque sorte, c'est que la vengeance ne la satisfait pas. C'est que l'idée de se venger ne lui apporte pas l'apaisement. Et le coup de théâtre, c'est justement l'apaisement est plus important que la vengeance.
Non, évidemment, ce qu'on peut aussi reprocher quand même, c'est la longueur, 2h16. Oui. Je ne suis pas sûr que ça soit indispensable pour ce qu'elle a à raconter, Pierre.
Je vais faire court parce que je suis assez d'accord avec Michel. Ouais, d'abord, c'est interminable. On n'en voit pas le bout. Ça dure 2h15. On a compris au bout de 10 minutes où elle veut en venir. Ça dure 2h15. En plus, techniquement, pardon, mais ça repose sur un vieux procédé qui est le montage parallèle. C'est-à-dire, on filme d'un côté les poursuivants, après les poursuivis, et ça donne une impression de lassitude, enfin d'ennui. Moi, je me suis mais ennuyé, comme il n'est pas permis de s'ennuyer. Et ensuite, je suis désolé, c'est pas parce que ça a été violent comme ça. Enfin, je veux dire que Camus avait dans son dernier roman une belle formule, admirable même. Un homme, ça s'empêche, disait-il. Eh ben, j'ai l'impression qu'il y a certaines cinéastes et certaines cinéastes qui devraient s'empêcher. Malheureusement, ils s'empêchent rien. Ils s'autorisent absolument tout. Et elles filment tout, les meurtres, les viols, et allons-y, allons-y, ça dégueule. Non, au bout d'un certain temps, c'est insupportable. D'autant que une des morales du film est dite à la fin. C'est quand l'héroïne dit « Les mauvais, on ne les comprend pas, on les tue ». Je suis désolé, c'est scandaleux. C'est scandaleux.
Éric.
Oui, c'est une drôle de chose. Hein. D'abord, c'est un remake non avoué, puisque ça n'est pas crédité au générique, d'Un justicier dans la ville, avec Charles Bronson, mais version tasmanienne et féministe, entre guillemets. Donc, Bronson, les films étaient accusés d'être facho, réac, épouvantable. Et là, tout d'un coup, c'est de la libération. Bon, ça, c'est un premier détail. Mais vous avez raison. Pourquoi le format carré? On ne sait pas. Pourquoi 2h16? On ne sait pas non plus. La Tasmanie, c'est pas si grand que ça. Hein. On pourrait la traverser un peu plus vite. Et c'est quand même un film très, très chichiteux et complaisant. Il y a un goût pour la violence gratuite qui m'a rappelé un autre film qui était très dérangeant, celui-là, et beaucoup plus réussi, c'était Bone Tomahawk de Greg Zeller. Mais là, on a quand même un côté... Je sais pas, les Anglais sont tous des ordures totales. La fille, elle est irlandaise, donc elle chante comme un rossignol, mais c'est un rossignol qui chante en gaélique. Mais on a vraiment envie que la chanson soit plus courte. Hein. Ça, c'est très décevant par rapport à son premier film, là, Babadook, qui était très intéressant. Là, c'est pas étonnant que ce soit pas sorti en salle.
C'est Nightingale, c'est Jennifer Kent et c'est disponible en DVD Blu-ray chez Condor. Autre nouveauté, cette fois en VOD sur Netflix depuis la semaine dernière, c'est Oxygène, qu'on pourrait rebaptiser Anxiogène. Je suis pas sûr que ceux qui en ont marre du confinement doivent absolument aller voir en priorité ce film. Bref, un thriller américano-français, qu'on déconseille aussi aux claustrophobes, hein, autre chose. Et il est signé Alexandre Aja, le fils d'Alexandre Arcadie, avec Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi, et de très jolies petites souris blanches, je n'en dis pas plus. Et Mélanie Laurent, c'est Elisabeth, une jeune femme qui se réveille dans un caisson cryogénique aux allures de cercueil blanc. Évidemment, elle est amnésique, elle ne sait pas comment ni pourquoi elle se retrouve conservée à moins de 100 degrés, jusqu'au moment où l'oxygène vient à manquer. Il lui reste alors 1h40, autrement dit exactement le temps du film suffocant d'Aja, qui d'ailleurs, on le voit ici, ne s'est pas exilé pour rien à Hollywood. Le seul contact de Mélanie Laurent avec l'extérieur, c'est la voix de l'ordinateur, alias Milo, auquel Mathieu Almalric prête son timbre ici très robotique. Je ne vous en dirai pas plus, Pierrot non plus, j'espère. Je précise juste que pressenti pour le rôle de Mélanie Laurent, il y avait d'abord Anne Hathaway, qui a finalement été coproductrice du film, et il y avait aussi Naomi Rapace. Pierrot.
Ben c'est plutôt une bonne surprise, moi, parce que j'ai trouvé ça plutôt angoissant. Alors je sais pas si ça vous a fait cette effet là, mais j'ai pensé à un autre film, les 50 premières minutes, quand elle est au téléphone et quand elle essaie, ça m'a rappelé un vieux classique qui est passé récemment à la télé, c'est pour ça que j'en parle, d'Anatole Litva, qui s'appelle Raccrocher, c'est une erreur, avec Barbara Stanwyck. Mais c'est un peu, alors ça a l'air idiot ce que je dis, mais ça n'allait pas tant que ça, parce que elles sont toutes les deux allongées, Barbara Stanwyck était allongée dans son lit, elle pouvait pas bouger et elle se raccrochait au téléphone.
Bah, moi j'ai vraiment étouffé au
sens. Mais voilà, oui, et elle se demande si la voix qui lui parle est vraie, fausse, si elle amène en bateau, et c'est un remake inconscient de Raccrocher, c'est une erreur, et je trouve qu'il s'en sort très bien. Après, ça commence à ressembler, alors une autre allusion, mais à Gravity avec Sandra Bullock, parce que elle commence à... Moi, j'ai un peu décroché à partir du moment où elle donne des instructions...
Il y a
elle...
beaucoup de flashbacks qui expliquent un peu l'histoire, la genèse
de l'histoire. Mais l'essentiel, ça se passe là, en effet, c'est très oppressant. Mais pour ceux qui aiment l'angoisse, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. C'est pas un très grand film, mais on est là jusqu'au bout, assez pantelant, se demandant ce qui va arriver. Je trouve que c'est vraiment une réussite.
Eric ?
Bah, le film s'appelle Oxygène, mais contrairement à son héroïne, Aja ne manque pas d'air, parce que c'est pas du tout un film personnel, c'est bourré de références.
D'où ma référence aussi à Hollywood. Enfin,
oui, mais à Hollywood, ils font pas seulement ça. Lui, il n'a pas du tout d'univers, là. L'ordinateur, au lieu de s'appeler Al, comme dans 2001, il s'appelle Milo. On devrait se dire, bah, la fille va comprendre qu'elle est sur Vénus, mais ça n'est pas ça du tout, parce que il y a absolument pas un gramme d'humour dans ce film-là. Il y a des moyens, mais le film l'est aussi. Et c'est surtout une intrigue, mais d'une platitude avec des flashbacks qui sont maladroits comme tout, qui ressemblent vaguement à du Terrence Malick.
Oui, c'est Terrence Malick.
Mais on voit Malick Zidi en pyjama blanc comme Raël,
le
gourou de la secte. Mélanie Laurent s'en tire très très bien. Elle porte le film, enfin, elle aimerait bien porter le film à bout de bras, mais elle peut pas les bouger, là. Et la véritable angoisse, c'est qu'elle est enfermée dans un endroit dont elle n'arrive pas à prononcer le nom correctement. C'est un caisson de cryogénisation. Donc on sent qu'elle est dans tous ses états.
J'aimerais t'y voir.
Ouais. Et il y a d'ailleurs des clins d'œil avoués, puisque à un moment donné on voit la fiche signalétique de quelqu'un et il est né en 2001. Et oui, bah, je regrette qu'il n'ait pas un univers à lui, parce que Crawl, son film précédent...
Bref, t'as pas aimé. Pierrot a aimé, toi t'as pas aimé. Et Eva ?
Écoute, je dois avoir un cœur de pierre. Je n'ai ni peur, ni sentiment de chlorophobie, ni rien. Je t'assure. J'ai regardé ça comme c'est en fait un exercice.
Tu n'as pas suffoqué
du tout. C'est
aucun
un petit
moment.
Côté MacGyver. Est-ce qu'elle va réussir à battre la machine, à trouver la manière de poser des questions à la voix synthétique pour arriver à contourner le fait qu'il veut pas l'ouvrir la porte.
C'est un suspense.
Non, mais ça te regarde agréablement, mais ça te crée pas de sensation. Or, un film de ce genre devrait te créer ces sensations. C'est un côté petit pari sympathique. Je vais faire un film unité de lieu, unité de temps, unité d'action, avec une fille en plus qui bouge pas et un tout petit lieu. Donc, il est marrant le pari. Mais je suis d'accord avec Eric. Le scénario est assez faible et on a très vite compris, puisqu'elle sait pas qui elle est,
Les flashbacks sont là pour ça.
Oui. Mais voilà, les flashbacks, c'est assez convenu. C'est une petite chose sympathique. Et Michel, pas effrayante.
Oui, moi, je le compare un peu au film de Brandon Cronenberg, c'est-à-dire qu'il y a rien...
À Possessor.
Ah, je préfère ça, moi.
Possessor, il n'y a rien de nouveau, d'original, et en même temps, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le voir par le tour de force que ça représente. Et il réussit, par exemple, à aérer le confinement par des flashbacks, par des vidéos. La voix, évidemment, bon, c'est vrai qu'on pense à la Vénus de Milo, c'est tout à fait normal, mais la voix de Amalric est très bonne, très bien posée, et je trouve que le film... se suit avec beaucoup d'intérêt. Là, j'ai pas du tout. Il dure 1h40, mais j'ai vraiment pas senti de faiblesse de narrative. J'ai trouvé que, encore une fois, que c'est un dérivatif d'autres films de science-fiction. C'est pas original, mais en même temps, je conseillerais à le voir.
Et donc, c'est Oxygène et c'est visible en VOD sur Netflix. On a quand même hâte, hein, de de revoir les
que le film se termine.
non, mais je parlais en général. Oui, c'est vrai qu'on s'accroche toutes les semaines depuis un an aux quelques nouveautés en VOD ou en DVD. Hein. Mais c'est toujours deux, maximum trois par semaine.
Et on a redécouvert des classiques, le Cercle Rouge, la Dolce Vita.
Mais on a passé une très belle année avec des découvertes extraordinaires. Et d'ailleurs, on continuera de temps en temps à parler des films de patrimoine. Qui est devenu presque maintenant le gimmick de l'émission. Hein, parce que tous les jours, je reçois des mails pour me dire, grâce à vous, grâce aussi à Bertrand Tavernier qui me l'avait conseillé, on a découvert ce film absolument magnifique avec Kirk Douglas, lequel d'ailleurs fait aussi très bonne transition, la une de positif ce mois-ci, pour un film qui n'est pas un nouveau, hein, qui n'est pas d'aujourd'hui, puisque c'est Spartacus.
Parce que c'est un dossier sur l'esclavage.
De Kubrick, voilà, qui illustre tout un dossier sur l'esclavage. Et dans ce même positif, il y a aussi un ensemble sur Désigné coupable, qui est le film passionnant qui va sortir que le 4 juillet avec Jodie Foster.
Un entretien avec Tara Reim.
Où elle joue une avocate, Jodie Foster, remarquablement. Batman, film de 1989 de Tim Burton, qui vient de ressortir, remasterisé en DVD Blu-ray chez Warner, dans un coffret aux couleurs de la Batmobile, avec en prime pour Eric un pins exclusif et une carte Joker. Alors, je le dis pour les amateurs de records, c'est le cinquième film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Vous le saviez, ça, les uns et les autres, oui. Avec Michael Keaton, évidemment, dans le rôle-titre, mais aussi Kim Basinger et Jack Nicholson. Je rappelle aux oublieux, il y en a encore sur cette terre, qu'avant de devenir Batman, Bruce Wayne s'est juré de venger ses parents assassinés par un voleur de rue qui en voulait au collier de perles de sa mère. Le playboy, milliardaire qu'il est devenu, opère en justicier masqué, habillé en chauve-souris. Il s'en prend non seulement à la pègre, mais aussi à la police forcément corrompue. Et sa première victime, c'est le malfrat Jack Napier, à la française, ou Jack Nicholson, qui après sa chute dans une cuve d'acide va devenir le fameux, le célèbre Joker. Et Batman découvrir qui est l'assassin de ses parents. Il y aura trois suites, hein, Batman le défi, également réalisé par Tim Burton, et puis Batman Forever et Batman et Robin, tous deux réalisés par Joel Schumacher. Revenons donc à ce Batman de 89, presque culte maintenant. Vous l'avez revu avec plaisir ou pas, Eric?
Bah, ça n'a pas vieilli, c'était déjà mauvais en 89 et ça l'est toujours, donc non. C'est un classique. Ça, c'est...
Je ne veux pas dire ça.
Je trouve que c'est un film d'un inintérêt.
Tu es définitif là.
Ah ouais, c'est... Non mais à mon avis, c'est absurde de tourner en chair et en os des bandes dessinées, ce sont des bandes dessinées qui s'inspiraient déjà du cinéma avec les cadrages, les personnages. Et là, mettre ça quand même noir sur blanc sur un écran, les intrigues sont quand même lamentables, c'est des trucs pour bas de plafond, c'est débile. Alors quand on voit ça pendant deux heures, tu dis que c'est un des films les plus rentables du cinéma, c'est surtout rentable pour Jack Nicholson, qui a demandé un cachet faramineux pour en faire des tonnes en s'en foutant complètement, et voir le plus grand acteur que c'était à l'époque devenir cette caricature de lui-même dans son costume violet sur une parade, sur un char, avec Prince aussi qui a dû se dire, tiens les gars, moi aussi je vais prendre le magot et vous composer une petite chansonnette complètement nulle. Non, c'est un film qui m'a rendu triste.
Mais même au second degré...
Je ne suis pas sûr que ce soit du second degré. Quand on voit les décors aujourd'hui, on a l'impression que c'est le guignol du Luxembourg, tellement c'est du carton-pâte. À côté, Genet, de Delicatessen ou de la Cité des Enfants Perdus, c'est Jules Verne. Non, c'est un truc mais d'un inintérêt. Ce Gotham City, j'y mettrai jamais les pieds, moi, même si on m'offre un penthouse en haut d'un immeuble.
Donc, 30 ans après, tu déconseilles de le revoir. Eva, tu avais l'air un peu...
Non, je suis pas d'accord. Alors, j'avais été plus marquée, bluffée, quand je l'avais vu la première fois, parce qu'effectivement, depuis, les effets spéciaux, les choses comme ça ont évolué, mais je continue à trouver quand même qu'il y a une sorte d'insolence joyeuse formidable, l'inversion du centre de gravité qui va plutôt vers le méchant, mais la part d'enfance de Tim Burton, il la met dans Joker, dans le sale gosse. Cette sorte de vitalité qu'il met de sale gosse. Et ça, je trouve que ça, c'est quelque chose qui tient et qui a tenu sur la durée.
Pierre,
Moi, c'est un film qui m'avait vraiment beaucoup marqué quand je l'avais vu à l'époque. Et là, en le revoyant, j'ai été à la fois très intéressé et un peu déçu. Alors, très intéressé parce que je suis D'accord, Eva. C'est-à-dire que moi, ce que je garde et ce que j'ai retrouvé, c'est le choc que j'avais eu devant l'esthétique du film. C'est-à-dire les décors. Il a créé quelque chose, Tim Burton. Ouais. Il a créé ces décors. Alors, on peut les trouver vieillots et tout, mais il a créé vraiment une ambiance, une atmosphère, des décors, les costumes.
Metropolis faisait ça beaucoup mieux. Hein.
Pardon?
Metropolis faisait ça 100 fois mieux. Oh,
peut-être, mais en tout cas, là, j'ai retrouvé ça. En revanche, c'est qu'il m'a paru justement... Moi, j'avais été époustouflé par Jack Nicholson. Et là, en le revoyant, je l'ai trouvé quand même pas si bon que ça.
Mais
cabotine.
Le fait de surjouer correspond.
Bien sûr. Non, c'est pas parce qu'il surjoue. Moi, j'adore qu'on surjoue. J'adore les grands cabots. J'ai toujours adoré ça. Mais là, je trouve qu'il est pas terrible. Et moi, je crois qu'il y a juste une petite, de la part de Tim Burton, je pense qu'il il est à la frontière. C'est-à-dire qu'il veut visiblement faire quelque chose de plus sérieux. Par exemple, il y a une réplique où Kim Basinger dit au héros « Mais je sais que vous avez des zones troubles en vous. » C'est dit comme ça. Et je pense que c'est ce qu'il voudrait faire, c'est qu'il n'arrive pas encore à faire, parce qu'il est obligé de réussir un succès au box-office, et Dieu sait que succès au box-office il y aura. Et je pense qu'on va le retrouver plus tard dans la suite, qui s'appelle « Batman, le défi », où là, vu le succès du film, il pourra donner libre cours à sa mélancolie, à sa noirceur, et ça sera beaucoup plus réussi que celui-là, je trouve.
Et voilà. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, et que je n'en avais pas dans le souvenir, c'est combien il fait un héros peu sexy. Batman, il est dépressif, il est névrosé,
mais voilà, c'est ce...
le costume a l'air trop grand pour lui.
Et puis il est joué
le
par Michael
de Batman,
Keaton, ce qui est un problème.
C'est Kim Basinger qui vient le séduire, ouais, il a l'air triste comme un cocker. Donc, c'est...
Et ça s'épanouira. Après.
Mais ça, c'est très, très intéressant. Moi, j'ai trouvé encore plus mélancolique et dépressif que dans la première vision. Je me disais, il faut être vraiment gonflé pour mettre ça dans un film à gros budget. D'ailleurs, il s'était quand même beaucoup bagarré pour le faire. À la fin, il était essoré quand il a fini le film.
Michel ?
Moi, j'ai pris un plaisir fou à le revoir. Alors, d'abord, je pense que on a été surpris quand on a vu Batman parce que c'était la découverte. Enfin, il avait fait deux films avant, Pee-wee's Big Adventure et Beetlejuice. Mais c'est la découverte d'un des grands cinéastes de la modernité. L'univers de Tim Burton était naissant déjà dans Batman particulièrement. Et je préfère Batman le défi, qui est un chef-d'œuvre absolu. Bien sûr, parce qu'il a beaucoup souffert pour le tournage, parce que c'était un genou, il avait 30 ans, la Warner essayait de le dominer, de le diriger, etc. Donc il a souffert, mais néanmoins, le plaisir que j'ai pris, parce que c'est un film carnavalesque.
C'est là qu'est l'enfance.
C'est ce qu'Éric Neuf ne veut pas comprendre.
Voilà. Les lèvres écarlates. C'est un film de sale gosse, et c'est génial.
Les cheveux verts, les lèvres écarlates, tout ça, c'est une sorte d'extraordinaire à la Fellini. Il y a un côté Fellini.
Oui,
et ce que je trouve aussi passionnant, c'est les trois niveaux du film, c'est-à-dire le sommet des immeubles, la rue et les sous-sols. Alors d'habitude, les méchants sont dans les sous-sols. Là, le sauveur de l'humanité est dans les sous-sols, c'est dans la cave. Et puis les méchants, Jack Palance, le chef des gangsters, il est tout en haut. Jack Nicholson aussi, qui le fréquente et qui le dirige. Et puis au milieu, il y a la rue avec les badauds, etc., qui prennent des coups. Donc tout le travail de Anton Furst, le décorateur, est digne de l'expressionnisme allemand. On pense aux grands films allemands des années 20. Il y a une imagination architecturale tout à fait extraordinaire. Et Nicholson est tout à fait formidable. Et super-héros, effectivement, mélancolique. Ce héros est beaucoup... Super-héros est plus complexe que la majorité des super-héros.
Et quelqu'un qui ne l'aurait pas vu, moi, je le conseillerais de le voir.
Hein. Et de voir Batman, le défi, après.
Oui.
Absolument. Batman de Tim Burton, de 89, donc, est d'il y a 30 ans, est réédité chez Warner, et je sens que je vais avoir dans le courrier, évidemment, ceux qui sont dans le camp de Neuhoff et ceux qui sont dans le camp de Simon.
Ça arrive.
Au même moment, ça peut arriver. Au même moment, enfin un an après, en 90. Un an après Batman, donc, mais avec un budget beaucoup, beaucoup moins fastueux, sortait La Baule, les Pins, le film de Diane Curis, réédité chez ESC, avec en bonus des entretiens, mais qui sont récents, avec Diane Curis et avec Nathalie Baye. On est sur la plage estivale de La Baule, avec une distribution, il faut dire, aux petits oignons. Hein. Nathalie Baye, Richard Berry, Zabou Breitman, Jean-Pierre Bacri, Vincent Lindon, Valeria Brudit-Tedeschi, qui garde les enfants, et l'acariâtre Didier Bénureau dans le rôle du propriétaire de la maison louée pour l'été 58 à tous les précédents. Pendant que les enfants s'amusent et que les ados s'essaient à l'amour, les parents se disputent, se trompent et menacent de divorcer. C'est le cas du couple formé par Richard Berry et Nathalie Baye, courtisée, je dis bien Nathalie Baye, hein, courtisée par l'avantageux Vincent Lindon. Et il avait un physique de jeune sportif hein, à l'époque. Beaucoup plus sage, beaucoup plus classique, et le couple formé par Zabou et Bakri. Bakri qu'on a, lui, rarement vu aussi bonhomme, aussi souriant. Et en fait, c'est sa propre enfance, vous le savez, marquée par la séparation de ses parents, que Diane Curis raconte dans ce film rythmé par les Platters, pour le plus grand bonheur d'Éric, et par la BO de Philippe Sard. Et comme il n'y a pas de hasard, Jean-Pierre Bakri est mort le 18 janvier dernier, c'est-à-dire le jour exact où Arte avait choisi de programmer, depuis longtemps, hein, la rediffusion de La Baule les Pins, ce qui est toujours un signe. Je suis sûr, Éric, t'as revu ça avec un bonheur beaucoup plus grand que Batman. Hein.
Ah bah oui, ah voilà. Diane Curis, enfin ce film-là, elle a mille fois plus de talent que Burton. Hein.
Oh là 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 là.
Non, non, mais j'ai trouvé que c'était
qu'est-ce
un film
qu'il faut pas entendre.
Tellement joli, avec une justesse. Non. C'est l'été 58 et on voit qu'à l'époque, les vacances duraient des siècles. Il passe des semaines et des semaines sur le sable au bord de la plage dans cette villa magnifique où le propriétaire habite au sous-sol et les enquiquine. C'est un film très drôle, très juste. Bakri fait le clown, les enfants font des bêtises, mettent le feu au club Mickey. Et c'est aussi un film où il y a une gravité parce que c'est l'été où tout va basculer. Après, plus rien ne sera comme avant pour ces deux gamines, surtout pour l'aînée qui doit avoir 12-13 ans.
Qui est le modèle
de Diane Curis, j'imagine.
Curis elle-même.
Qui tient son journal parce que ça sent le divorce qui approche, le déménagement à la rentrée. Ils comprennent pas très bien pourquoi est-ce qu'ils vont en vacances, que la mère n'est pas là, le père non plus, et qu'ils sont gardés par Valéria Bruni. Et c'est une chronique, mais avec une écriture, un côté joyeux et déjà mélancolique sur le moment, ça m'a fait penser au roman de Dan Wiazemski, un mélange de cette histoire de traversée qui s'appelait Mon beau navire, où des enfants qui vivaient en Argentine comprenaient à bord que leurs parents allaient divorcer, qu'ils n'allaient plus revoir leur père. Et puis aussi, j'ai oublié le titre d'un autre roman d'elle qui se passait dans une maison sur la Côte d'Azur avec tout un tas de cousins comme là. Et ça, c'est un mélange des deux et c'est un film, mais vraiment très touchant, qui ne bouge pas. C'est évidemment le meilleur film de Diane Curis, ce qui ne veut pas dire grand-chose, je vous le concède. Mais il y a vraiment quelque chose de très français.
Ah oui, ça c'est incontestable.
Oui, mais ça aurait pu être ridicule. Et c'est vraiment un film avec une décence et quelque chose d'émouvant que j'aime beaucoup.
Michel, c'est mieux que Tim Burton, Diane Curis?
Non, je ne veux pas écraser Diane Curis avec une comparaison qui n'est jamais venue à l'esprit, d'ailleurs.
Non, moi non plus, jusqu'à...
D'abord, je constate que Eric défend beaucoup plus le cinéma français qu'il ne le prétend.
Oui, absolument.
C'est un grand défenseur.
Dans ses livres, tu veux dire.
Défend ce film parmi les films français depuis 50 ans, c'est tout de même, il est à la 952e place. Mais cela dit, c'est pas non plus un mauvais film. Je trouve que c'est plutôt d'une sorte de cinéma de la vie quotidienne. Moi, je préfère Un été 42 que cet été-là.
Oui, mais c'est très bien.
Moi, ce que je sauve du film, tout de même, c'est Bakri.
Oui, c'est ce que je dis, c'est que
Bakri est
vraiment si on veut se souvenir, en plus l'année où il est mort, si on veut se souvenir d'un Bakri sortant un tout petit peu de ses rôles de neurasthénique, c'est vrai qu'on le trouve dans ce film.
Oui, alors il y a des moments très drôles. Par exemple, il lit François, et puis alors il dit « Ça va mal en Algérie, ils ont même des inondations.
Oui, »
Donc il y a des touches qui sont...
Michel va en dire plus de bien que moi, vous allez voir.
Les comédiens sont bien, non, je trouve que ça fait partie d'ailleurs... Télérama, que Pierre Murat représente, et qu'il a représenté longtemps, aimait beaucoup ce type de cinéma, c'est le nouveau naturel. Moi je trouve que Pascal Thomas, dans le genre, avait plus de trouvailles.
Ici, Ils ont plus de fantaisie.
Plus de fantaisie. Oui. Ici on est tout de même dans une norme réaliste, comme ça, prudente, c'est sympa, c'est joli. Peut-être qu'elle était inhibée par le fait qu'elle racontait son histoire personnelle, qu'elle n'a pas dû trouver exactement la distance. Donc je n'ai rien contre le film, encore une fois. Je suis un peu étonné de cet enthousiasme.
Mais attends, tout le monde n'a pas fait. Eva.
Je n'irai pas jusqu'à Eric, hein, très franchement.
Ne sois pas plus féministe que moi.
C'est un joli film et il y a une impression de choses senties, ressenties, qui passent effectivement délicatement. Mais je trouve que par moments, on commence par une idée, on a l'impression que tout le film va être du point de vue des enfants. Et puis on change de point de vue. On est avec Nathalie Baye quand elle était son amant dans les dunes. Il y a un peu trop de petites scènes avec les enfants, ça s'étire un petit peu. Et par exemple, des personnages comme le couple que forment Bakri et Zabou, qui est le couple qui s'entend bien, qui est assez traditionnel, est enceinte jusqu'aux yeux, elle tricote à la plage, enfin, c'est un autre monde. Alors que sa sœur Nathalie Baye, elle est déjà le monde de demain, elle en a marre, elle veut divorcer, elle a un amant, et elle ne va pas s'étaler sur les raisons pour lesquelles elle veut divorcer. Je trouve que tout ça, c'est en germe, et on aurait envie que ce soit un peu plus. Donc, je ne vais pas du tout jusqu'à l'enthousiasme d'Éric, mais c'est un film, c'est un joli film. Avec, et quand on le revoit après...
Personne ne parle du séducteur Vincent Lindon, qui...
Oui, bah, d'accord. Enfin, il a un petit rôle. Hein. Ouais. Il est là pour la retrouver sur les
dunes. Il a progressé ensuite.
Alors, Télérama, est-il fidèle à Télérama?
Oui, il l'est. Mais moi, je suis pas un fan de Diane Curie.
Bah,
mais...
Moi non plus, hein.
Si.
Ah non.
Mais ce si, film. Tu l'as prouvé il y a 30 film, secondes. Là. Non, je trouve que elle a dit dans le DVD Diane Curie ce qu'elle voulait faire surtout un film sur les enfants. Et là, je suis d'accord, Eva, c'est pas très très bon, c'est pas très original, c'est pas très neuf ce qu'elle dit sur les enfants. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est le témoignage qu'elle donne sur 58, parce que c'est quand même une époque où encore un père pouvait gifler, donner une gifle à son fils et tout le monde trouvait ça tout à fait normal.
J'espère que c'est pas un regret dans ta bouche.
C'est une constatation qui pouvait mettre des crabes, ébouillanter les crabes sans recevoir un message de la Société Protectrice des Animaux, donc on montre ça aussi. Non, et plus sérieusement, il y a une scène quand même qui est magnifique, c'est la scène où Richard Berry devient fou de jalousie et tape.
Il casse tout, là.
Voilà. Ça, c'est une scène absolument d'une violence.
D'ailleurs, même un film avec Richard Berry, aujourd'hui, ça serait...
Oui, mais je veux dire que la façon...
Ah, c'est vraiment un film à l'imparfait.
La façon qu'elle a, Diane Curie, de montrer ça, c'est-à-dire comment, en lui disant « c'est ta faute », il lui tape dessus en lui disant « c'est ta faute, c'est toi qui m'as poussé à ça », et personne n'intervient vraiment, tout le monde est très gêné, personne ne sait comment intervenir. Et là, je trouve que c'est un film qui reste... Alors là, pour cette scène-là et ce passage-là, extrêmement actuel, parce que Nathalie Baye, c'est vraiment la femme qui, à un moment donné, dit, il lui dit, après cette scène, quelques jours après, je te demande pardon, j'ai changé, et elle lui répond simplement non. Et là, on voit que...
Ça, oui, elle est la femme moderne qui viendra après.
Et ça, c'est vrai que dans ce film léger et un peu tiédasse, cette scène-là, on l'oublie pas.
Et puis la fin, avant le retour à Paris, il y a quelque chose d'assez émouvant, je trouve, assez mélancolique.
Mais à cause de cette scène-là, à cause de...
C'est La Baule, Les Pins, c'est Diane Curie, c'est réédité chez ESC. Et maintenant, pourquoi le cacher, un comédien qui ne m'est pas totalement étranger, qui est Gérard Philippe, dont on célébrera l'an prochain le centenaire de la naissance. Mais je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Coin de Mire, réédite, restaurée, remasterisé, dans de beaux coffrets d'ailleurs augmentés, c'est très amusant, des actualités, des réclames, des bandes annonces de l'époque, Fanfan la Tulipe et la Chartreuse de Parme de Christian Jacques, ainsi que les grandes manœuvres de René Clair, c'est ce film de 1955 qui avait reçu le prix de Luc, que je soumets à votre jugement, Gérard Philippe, y incarne Armand de Laverne, séducteur et lieutenant au 3e Dragon, qui est cantonné dans une ville de province. Après un pari entre militaires, il doit devenir l'amant d'une modiste qui tient une boutique en ville et a les traits de Michel Morgan. Or, ce qui était un pari stupide devient une vraie histoire d'amour que des péripéties et l'approche des grandes manœuvres vont empêcher de se réaliser. Je n'en dis pas plus avec... Une distribution totalement insensée, la toute jeune Brigitte Bardot, un régiment commandé par Pierre Dux, où figurent Yves Robert, Michel Piccoli, Daniel Secaldi, Jacques Fabry, et puis on va ajouter Jean de Sailly et Simone Valère, inséparables, Jacques François, Jacqueline Maillan, Judith Magre, Daniel Sorano, Claude Rich, je crois que même j'en oublie, un film évidemment de René Clair, donc forcément Michel... boudé, voire conspué par les tenants de la nouvelle vague. Et l'affaire a d'ailleurs assez duré. Et je rappelle que avec René Clair, Gérard Philippe avait tourné aussi La Beauté du Diable et Les Belles de Nuit. Ces grandes manœuvres, tu les as revues,
Oui, moi, Michel. J'ai adoré. Enfin, je l'avais vu à l'époque, je l'ai revu depuis, mais je trouve que c'est un film totalement réussi. C'est-à-dire, il réussit à réconcilier deux grands auteurs de théâtre presque opposés, c'est-à-dire Feydeau, pour la comédie de boulevard, et Musset, On ne badine pas avec l'amour. Et je trouve que la conjugaison de ces deux auteurs, on passe de la comédie à la tragédie, le rythme est absolument merveilleux, la réconstitution de l'époque aussi. Je trouve que Gérard Philippe Alors, on l'a comparé à l'époque avec Monsieur Ripois, qui est un autre chef-d'œuvre de René Clément.
Qui n'a rien à voir, vraiment rien à voir.
On a comparé les deux personnages, ce qui est une erreur, parce que dans Monsieur Ripois, il s'agit d'un personnage totalement cynique, alors qu'ici, il s'agit d'un personnage inconséquent.
Très inspiré de la figure de Don Juan, quand même.
Don Juan, oui, mais en même temps, il y a quelque chose de plus systématique chez Don Juan. Là, c'est vraiment quelqu'un qui ne se rend même pas compte, qui est inconséquent, inconscient même du mal qu'il va faire. Et j'ai trouvé le film avec une légèreté, une grâce. Alors, je crois que c'est Horace Walpole qui disait « La vie est une tragédie pour l'homme qui sent ». Elle est une comédie pour l'homme qui pense. Et quand on oppose Renoir et René Clair, quand on oppose le Renoir des années 30, par exemple, c'est la tragédie, parce que Renoir a une extraordinaire sensibilité, alors que René Clair, c'est une grande intelligence.
Et c'est pour ça, selon toi, qu'on en a dit tant de mal, enfin qu'il a été si mal considéré. Ouais,
il a été rejeté par Godard, par Truffaut, oui, par Romère, avec tous les grands cinéastes de l'époque. Enfin, pas tous. Ils ont aimé Tati, ils ont aimé Bresson, mais des marginaux. Mais ils occupaient la place, donc il fallait prendre leur place. C'est une génération qui veut prendre la place d'une autre, c'est classique. Ça existe chez Balzac, chez tout le monde, on le connaît. Il n'y a pas à leur en vouloir, sauf qu'ils ont fait des victimes.
Pierre,
ce qui est formidable dans le film, c'est qu'on sent, tu l'as dit, Jérôme, Gérard Philippe a tourné 3 films avec René Clair, et c'est ça qui m'a frappé, moi, en le revoyant, c'est l'entente qu'il y a visible entre le metteur en scène et l'acteur. Parce que Gérard Philippe est transcendé, là. Il est, alors, moi, je le préfère, personnellement, dans Belle de Nuit. Parce que c'est encore plus fantaisiste. Et j'aime beaucoup le René Clair, totalement fantaisiste, qui papillonne ce qui existe ici. Mais ce qui m'a frappé, c'est vraiment la façon dont ces deux-là s'apprécient, s'aiment, s'encouragent. Et par exemple, Gérard Philippe est magnifique. Magnifique. Parce que, au départ, lorsqu'il joue, donc, le séducteur, il surjoue un peu, mais puisqu'il est en représentation. Et plus le film se déroule, plus le sentiment l'envahit, plus il s'épure, et tout ça. Et entre Claire, René Clair et lui, il y a une entente qui est apparue absolument formidable. Et la mise en scène est très très belle en même temps dans la précision. Par exemple, j'ai remarqué une scène qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui est en pastel, absolument en pastel, mais avec des taches rouges partout. Alors ça va du sigle de la croix rouge, par exemple, mais qui correspond à le képi de Gérard Philippe, mais qui est aussi la ceinture de Magali Noël. Tout ça est calculé au millimètre et c'est très bien. Alors, le seul petit détail pour moi qui cloche, mais je suis sans doute injuste, c'est Michel Morgan. Parce que je trouve que toutes les autres femmes sont absolument...
La toute jeune Bardot
est étincelante. Ah ouais. Magali Noël aussi, elles sont toutes là, elles vibrent, oui,
mais
ça bouge.
Non, mais pas du tout, mais
Michel Morgan, elle joue le rôle d'une femme divorcée.
Non, justement pas. Non,
pour divorcée moi, et parisienne. Modiste. Elle est parisienne et divorcée. Et alors, elle est tenue à l'écart par tout le monde.
J'ai bien compris. Non, mais Michel ne me raconte pas le film, j'ai compris. Je dis simplement... Je crois quand même que elle est marmoréenne, mais elle n'arrive pas à exprimer, pour moi, j'ai peut-être tort, le trouble, comme d'autres comédiennes savaient le faire à l'époque. C'est le petit bémol que je fais. Elle freine et l'émotion et la fantaisie du film.
Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est justement à la rencontre des deux que tu sens quasiment physiquement une alchimie entre sa beauté à lui, sa grâce, sa jeunesse aussi. Le fait, comme tu disais, Michel, qu'il y a une sorte d'inconscience dans la manière dont on s'y comporte. Peut-être aussi quand on regarde le film aujourd'hui, c'est un film qui est censé au départ et qu'il te soit sympathique, et des moments au début où il était insupportable, peut-être parce qu'on le voit avec nos yeux d'aujourd'hui. Quand il entre chez elle sans demander l'autorisation, il s'allonge sur son canapé, enfin, il interrompt une conversation. Comme il a ce capital de grâce qu'il a. Donc nous, on est partagé entre l'attirance qu'on a pour lui et son comportement. Et quand il se rencontre avec elle, justement, elle a une sorte... Elle est au-delà de l'innocence. Elle est déçue par la vie. Elle a cette sorte de visage. Elle minaute pas.
Ah si.
Truc. Et je trouve.
Ah si, elle minaude.
Ah non, je trouve.
Tu as trouvé le mot, elle
minaude. Elle est modiste. Elle est censée être indépendante. Et elle est avec Jean de Sailly qui se comporte comme si elle était une fille entretenue. Donc on voit aussi ce qu'était une femme à l'époque. Si tu n'es pas une femme mariée, tu es rien. Donc je trouve que elle a une manière d'apporter le tragique que je trouve magnifique.
Mais Eva, je ne parle pas du personnage, je parle de l'actrice.
Non, je te parle de l'actrice.
Éric, qui aurait pu d'ailleurs être au 33e Dragon, qu'est-ce que tu en penses?
J'aurais aimé, parce que dans cette ville de garnison, c'est pas mal d'être soldat. Et dans ce film qui est tellement rapide, c'est comme de la crème fouettée cinématographique, ça va tellement vite comme du marabout bout de ficelle, c'est l'élégance, la légèreté, l'esprit français, on est dans cette famille où il y a, comme disait Michel Feydeau, mais aussi Philippe de Broca, Louise de Villemorin. Il y a d'ailleurs une histoire de lettres, comme dans La lettre dans un taxi, qui jouera son rôle. Et c'est vrai.
Il y a même du Stendhal, je trouve.
Oui, avec le côté terre, la province, et puis un certain romantisme, mine de rien, mais du romantisme contrôlé, dirigé. Gérard Philippe mène la bande. Brigitte Bardot, elle est à tomber, là, c'est vraiment... Et René Clair crée à la femme, c'est... Michel Morgan, elle est bien, elle a une sorte de fêlure qu'on sent, et ce qui m'a amusé, c'est que par moments, elle a un faux air d'Ariel Dombal. De même que Yves-Robert Jeune ressemble à Vincent de Dienne, j'ai trouvé.
Tu m'ouvres des horizons,
Film. Et le film est vraiment une réussite totale, et on voit sur l'écran, de A jusqu'à Z, le plaisir que tous ces gens ont eu à faire ça. Et ça se sent, ça se traduit, et c'est devenu tellement rare maintenant qu'il ne faut pas rater ce truc-là.
Et à la fin, Gérard Philippe est à cheval, il défile avec son régiment. Quoi ?
Ne dis rien.
Gérard Philippe, juste.
Il est à cheval.
Il n'avait pas monté à cheval.
Dans le bonus et dans le.
Il n'avait pas monté à cheval. Et dans Fanfan, il galère.
Oui, mais le cheval jouait bien.
Et voilà. Et justement, et le maître d'armes du tournage de Christian Jacques avait dit, mais comment est-ce qu'il réussit à monter si bien? C'est un tellement bon comédien que même le cheval croit qu'il s'est monté.
et dans le bonus, je ne révélerai rien, mais ceux qui achèteront le DVD découvriront une autre fin qu'avait tourné René Clair.
Absolument. C'est donc Les Grandes Manœuvres, c'est René Clair, c'est aux éditions Coin de Mire, chez Maison, où on trouve également réédité ces jours-ci Fanfan la Tulipe, La Chartreuse de Parme, et puis un autre que je n'ai pas sous les yeux, mais qui est un moins connu de Christian Jacques, je crois, avec des films courts. Et on termine avec Black Jack, un film de 1979 de Ken Loach, son cinquième d'ailleurs, qui ressort en combo Blu-ray DVD chez Rimini, né dans l'Angleterre de 1750. Tully, qui est un jeune orphelin, joué par Stephen Hurst, fait la connaissance de Black Jack, qui est joué par un Français, Jean Franval, bandit de grand chemin qui vient d'échapper à la pendaison, et le brigand qui enlève Belle, qui est joué par Louise Coer, une fillette que ses parents veulent mettre à l'asile, se charge d'empêcher les enfants de s'échapper, et ils vont s'échapper pour rejoindre une troupe de forains qui parcourt les routes de la région. Film d'aventure qui surprend de la part du chantre du cinéma social qu'il va devenir, Eva.
Effectivement, ça surprend totalement. Ça a toutes les allures du conte. Les orphelins, le petit garçon orphelin n'est pas malheureux. C'est un orphelin débrouillard, comme dans certains contes, qui prend sous sa protection la petite fille dite folle que ses parents éloignent parce qu'elle les gêne dans leur vie bourgeoise et dans leur ascension sociale. Il y a le géant qui était auparavant un malandrin et qui finalement va devenir gentil. Si on compare à Family Life qu'il a fait quelques années auparavant, où il y avait une jeune fille schizophrène et il y avait une sorte de critique de la médecine, là on peut dire aussi, si on veut chercher un point commun, une critique, puisque les médecins qui sont censés s'occuper de cette jeune fille folle sont des ordures. On voit ce qu'est la psychiatrie à l'époque, c'est-à-dire rien, on enferme les gens dans des mouroirs, et c'est le monde de la marge a plus de valeur que le monde bourgeois. Voilà, ça se regarde agréablement, c'est pas un très grand film.
Eric ?
Ah, je ne le connaissais pas, mais c'est une vraie découverte, c'est une pépite, hein. C'est aussi bien que La Boule des Pins pour moi. Non, mais c'est vraiment quelque chose dans l'œuvre de Ken Loach de tout à fait
c'est quand même
unique.
Très surprenant.
Oui, mais c'est peut-être pour lui un exercice de style, mais il est totalement à son aise là-dedans. On a l'impression d'être dans ces bons gros romans anglais. On voit l'époque, on voit les rapports entre les riches et les pauvres, la misère, l'hypocrisie des uns, la débrouillardise des autres. Et puis aussi, c'est un très grand film sur l'enfance, cet orphelin qui est obligé de se débrouiller, qui découvre ce qu'est le monde. Il y a un autre gamin, lui, qui a déjà tout compris, qui est plus adulte que les adultes, qui sait qu'il devra être manipulateur, faire chanter les autres pour s'en sortir. Et c'est vraiment presque un grand film pour moi.
Pierre,
oui, moi ce que j'aime aussi, comme toi, Eric, c'est l'opposition entre les deux gamins, quoi. C'est-à-dire le héros qui est en quelque sorte la vertu philosophique, ça, et qui se heurte à Hatch, l'autre, qui est absolument le vice. Donc il y a plein d'ellipses. C'est très curieux, mais ça vaut absolument le coup.
Michel.
Ces trois premiers films, ça avait été des échecs commerciaux en Angleterre. Pour Case et Family Life, il est retourné à la télévision, et là, il a tourné ce film. Je le sens pas tellement à l'aise comme vous dans le film en costume. C'est-à-dire, je pense que quelqu'un comme Stephen Frears, qui est beaucoup plus éclectique, aurait donné plus de vigueur, plus de dynamisme, plus de... Alors, il y a tout ce qu'on retrouve chez Loach, c'est-à-dire les grandes... Il aime les oppositions. Il y a les bons et les méchants chez Loach dans tous ses films sociaux. Là, il y a les comédiens ambulants par rapport à la bourgeoisie étroite d'esprit. Il y a le petit garçon pauvre par rapport à la petite jeune fille riche. Il y a les possédants. Il y a même un peu d'antipsychiatrie aussi dans le film. Donc on est sur son territoire, mais je trouve le film, malgré tout, ne s'envole jamais.
Enfin, en tout cas, il n'est plus revenu au film d'aventure ni en costume après ce Blackjack de 79, qui est une vraie découverte qu'on peut faire grâce à cette réédition chez Rimini en combo Blu-ray DVD. Allez, on a le temps de conseiller. Je vous rappelle que dans 3 jours, les salles rouvrent. On va pouvoir aller au cinéma. Vous avez le droit donc de conseiller des films sur grand écran et pas simplement des rééditions. On commence avec Eva.
Eh bien, moi, je vais conseiller l'exposition Kiarostami au Centre Pompidou qui ouvre le 19 mai jusqu'au 26 juillet. Il y a une intégrale des films de Kiarostami, des films que même ceux qui sont ses fans, je me mets dedans, ne connaissaient pas. Et il y en a un formidable que j'ai pu voir qui est Cas numéro 1, Cas numéro 2, qui tourne en 79, juste après la Révolution. C'est un dispositif mi-fiction, mi-documentaire. Un cas de figure très simple. Chahut dans une classe, l'enseignant chasse le groupe d'élèves. Est-ce que cas numéro 1, pour pouvoir rentrer en classe, un des élèves trahit? Cas numéro 2, tous les élèves sont solidaires et ne dénoncent pas le coupable. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il interroge, en leur montrant ces images, des dignitaires de l'époque, le ministre, et on les entend dire des choses absolument pas dans les clous. On entend des religieux, on entend le ministre de la Culture prendre la défense des enfants qui résistent. Après, ce film, après la première projection, sera interdit.
Ah, il faut savoir qu'il y aura aussi beaucoup de livres, il y a accompagné beaucoup de beaucoup de choses.
Voilà, mais
pour
ce film est incroyable.
Célébrer Kiarostami. Ouais. Le conseil de Michel.
Je signale que Potemkin fait un coffret avec tous les films
les années canon
au Centre Pompidou.
Il est dedans.
Voilà.
Et des livres, encore une fois.
Alors moi je conseille un autre coffret, un ensemble de rééditions restaurées avec des documents passionnants, le tournage de Répulsion par exemple, un autre sur Polanski en Pologne avec Vajda qui parle de lui. C'est chez Carlotta, les 3 premiers films. C'est rare d'avoir 3 chefs-d'œuvre, un metteur en scène qui commence sa carrière par 3 chefs-d'œuvre, Le couteau dans l'eau, Répulsion, Cul-de-sac, plus 8 courts-métrages de Polanski, la totalité de ses courts-métrages, car Polanski, comme Alain René, a été aussi génial dans le court-métrage que dans le long-métrage.
Pierre, je te sens en accord avec...
Absolument, je suis ravi que...
C'était ton conseil, non ?
Oui, c'est mon conseil aussi, c'est-à-dire que je voulais... Mais alors, je vais en profiter pour m'étendre sur un des 3 films que j'aime un peu plus que les autres, qui est Cul-de-sac.
Je trouve lui aussi, d'ailleurs.
Cul-de-sac est un petit chef-d'œuvre qu'il faut revoir. C'est une intrigue à la Samuel Beckett, puisque c'est des 2 gangsters qui arrivent sur une île et ils attendent vainement qu'on vienne un cattelbar comme Godot, qui n'arrivera jamais. Et c'est tout à fait formidable. Et c'est d'une ironie, d'une... C'est surréaliste totalement, et c'est complètement rythmé par la musique de Christophe Komeda, qui est stridente, comme ça, qui est agressive, et par les rires de Françoise d'Orléac, qui est absolument géniale dans le film, et qui, en quelque sorte, commente l'action jusqu'au drame final. C'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre.
C'est son film préféré.
Vos 2 conseils de Michel et de Pierre sont réédités chez...
Carlotta.
Et enfin, le conseil d'Éric.
Le coffret DVD, la trilogie du milieu chez Éléphant, sont 3 films policiers de Fernando Di Leo, dont j'ignorais totalement l'existence. Tarantino dit que ce sont les meilleurs thrillers italiens de tous les temps. Et c'est vrai, il y a 3 films de 72, 73, Milan calibre 9, Passeport pour 2 tueurs, Le Boss, avec dans les 2 premiers cet acteur complètement dingue qui s'appelait Mario Adorf, qui était un mélange de Victor Lanoux et de Vittorio Gassman, qui faisait des grimaces, qui roulait des yeux, et tout ça est d'une violence, d'une vulgarité, d'un rythme et d'un chemin foutisme qui est très réjouissant. C'est bien bourrin, c'est du cinéma du samedi soir comme on n'en fait plus, et vous allez vous régaler au second degré.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Eva.
Un mot pour dire que dans l'ensemble Kiarostami, le livre de Jean-Michel Frodon et Agnès de Victor est formidable.
Merci, Eva Bétan, Michel Simon, Pierre Murat, Éric Neuf pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, à la technique au théâtre de l'Alliance française, il y avait, et je les remercie, Julie Garraud ainsi qu'Étienne Collin. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de livres. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.